Alors, on va voir ensemble le second miracle d'Élie. On continue. Donc, on a commencé le premier miracle la dernière fois. Donc, pour le contexte, on est en 1 roi 17. On rappelle donc qu'il y a cette veuve, la veuve de Sarepta, qui a vu la grâce de Dieu dans sa vie. L'arrivée du prophète était une grande bénédiction. Sans lui, son fils et elle-même n'auraient pas survécu, ils seraient morts à cause de la sécheresse. On a ici un peu finalement l'expérience de la vie chrétienne. L'expérience de la vie chrétienne, ben, c'est de goûter hein, à la bonté de Dieu, à la providence de Dieu, à la grâce de Dieu d'une façon miraculeuse. Et cette veuve l'a vu. Donc on est dans 1 roi 17 et soudain, c'est l'épreuve. 1 roi 17, 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et donc on voit, après la providence miraculeuse, c'est l'épreuve. Et on peut comprendre que cette veuve est submergée, elle est dans l'incompréhension. On peut même parler d'amertume, hein. Là, c'est le malheur qui s'abat sur elle. Et on voit que cette femme voit la mort de son fils, elle le prend en tout cas, semble-t-il, comme cela, comme un châtiment de son péché. Es-tu venu me rappeler la faute de mon péché, de mon iniquité? Mais la maladie, l'épreuve, il est bon de le rappeler, c'est pas nécessairement, ça peut arriver, mais c'est pas habituellement la raison de notre péché. Qui était ce fils pour elle? C'était son bien le plus précieux, puisqu'elle était veuve, elle n'avait pas de mari, et semble-t-il, eh bien, elle n'avait pas d'autres enfants qui pouvaient prendre soin d'elle, donc elle n'avait qu'un fils, c'était son fils unique, c'était toute sa richesse, c'était aussi le souvenir de son défunt mari au travers de ce fils. Donc c'était son espérance, c'était sa famille. Et on trouve là une vérité importante, c'est que quand on transpose ça à la vie chrétienne, dans la conversion, dans la foi en Jésus-Christ, dans cette rencontre avec le Dieu de la Bible, il arrive parfois un moment où Dieu nous demande de lui céder ce qui nous est le plus cher. Et on peut dire que ça fait partie du processus de la sanctification. On doit tous le comprendre, ça fait partie de la vie chrétienne, de tout remettre à Dieu, de tout abandonner entre ses mains. Parfois, c'est un enfant, comme cette veuve, hein, un enfant que nous devons donner ou rendre à Dieu. Parfois, c'est un conjoint, c'est un parent, c'est un ami. Sans parler forcément de la mort, hein, mais il y a une séparation. On doit quitter, se séparer, on offre à Dieu. Parfois, c'est un projet, c'est un plan d'avenir, quelque chose où, voilà, on avait une vision et on doit renoncer. Combien il y en a qui étaient devant des choix professionnels importants et un moment pour faire la volonté de Dieu, eh bien, ils ont laissé ce qui semblait à vue humaine être le meilleur. C'est une espérance future parfois. Ou bien c'est un bien, quelque chose qui nous est cher, comme Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, c'est par toi. C'est peut-être aussi mon indépendance. Parfois, eh bien, il faut voilà, renoncer à son indépendance, déposer à ses pieds. En fait, ça peut être n'importe quoi. Dieu se charge de nous montrer ce qu'il y a dans notre cœur. Verset 19, Élie lui répondit, « Donne-moi ton fils. » La veuve l'avait dans ses bras, elle l'avait contre son sein, hein, on peut l'imaginer, contre son cœur. Hein, et le prophète lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et c'est une phrase courte, mais finalement que Dieu nous dit à tous un jour ou l'autre. S'il ne vous l'a pas dit, eh bien, il va vous le dire. Il vous le dira un jour. Donne-moi. Maintenant, peut-être que vous savez déjà hein, de quoi il s'agit. Vous pouvez donne-moi et puis vous pouvez rajouter la chose. Hein. Vous le savez. Dès le début, lorsque l'homme rencontre Dieu, ou quand Dieu vient rencontrer l'homme, on pourrait dire plutôt, la première chose que Dieu fait, c'est quand même de nous dire « donne-moi ». Ça commence toujours comme cela. Parce que finalement, la foi en Jésus-Christ, la repentance, la conversion, ça se réalise quand on donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le fait de donner sa vie, de donner son cœur, c'est ça qui fait qu'on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Regardez Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Il est dit, « Mon fils, on pourrait dire aussi ma fille, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et ça, c'est le commencement de la vie chrétienne lorsque, eh bien, on cède son cœur. Ça, c'est la conversion. C'est une vraie conversion à Dieu. Le cœur lui est alors offert avec confiance, dans l'abandon, dans la foi qu'il va prendre soin de nous. Et quand on y pense, après, eh bien, la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, ce n'est qu'un renouvellement constant de ce premier abandon. Et on recommence, et on recommence. Hein, parce que nos cœurs s'attachent sans arrêt à toutes sortes de choses ou de personnes. Ou de... Mais dans l'abandon, hein, dans l'abandon du cœur, hein, eh bien, il y a le témoignage de la foi, de la confiance. Le Seigneur me dit, donne-moi, je lui fais confiance. Et cette histoire de cette veuve de Sarepta, ça nous parle en fait du renoncement. Et parfois, on oublie que le Seigneur nous veut libre pour lui et entier pour lui. Prenez cette fois Luc 14, versets 26 à 27. Luc 14, versets 26 à 27. On peut même lire le verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, » certaines traductions disent « sans haïr hein, », mais il y a l'idée eh bien, finalement de faire un choix personnel. C'est pas de haïr personnellement, mais c'est faire le choix, mettre en premier. Hein. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et un disciple, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui fait le choix de Jésus-Christ en premier dans sa vie. Il a la première place dans sa vie. Jésus passe avant tous, il passe avant tout. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. En fait, de quoi s'agit-il ce premier commandement? C'est de l'adoration. C'est tout simplement de l'adoration. Hein. Aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Mais c'est l'adoration, ça. C'est l'amour qui adore. Et finalement, quand on n'est pas prêt à lâcher quelque chose pour le Seigneur, c'est qu'on n'est pas loin de l'adoration de la chose en question. On n'est pas prêt à la lâcher parce que ben, c'est elle qui a la primauté. Et quand le cœur ne veut pas donner, quand il ne veut pas abandonner, eh bien c'est qu'il aime au-delà de ce qui est normal. Il aime trop. Alors peut-être vous vous dites, aïe, 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 j'aime. Alors puisque j'aime, Dieu va me demander cette chose, il va me la prendre, je vais la perdre, il va me la retirer. Mais pas forcément. Donner, ça ne veut pas dire forcément en être privé. Et on le voit ici dans l'histoire de cette veuve, Dieu ne va pas priver la veuve de son fils. Mais il va quand même lui demander de l'abandonner à Élie. Hein. Et le fils eh bien, va quitter sa vue, Élie va le prendre. Verset 19, il est dit, « Il lui répondit, donc 1 roi 17, 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Et parfois, Dieu nous demande de donner pour un temps. Il ne veut pas nous prendre définitivement, mais il veut nous rendre capables de le mettre lui en premier. Capable de ne pas nous attacher au-delà de ce qui est raisonnable. Et puis, il veut aussi nous apprendre finalement à ne réserver l'adoration que pour lui seul. Et je me souviens d'une épouse. J'étais jeune dans la foi et il y a une épouse qui m'avait partagé quelque chose sur sa vie et elle me disait que bien qu'elle avait bien compris que l'homme était le chef de la femme, que son mari eh bien, était très important hein, dans sa vie, le premier c'était quand même Dieu. Et elle avait compris que eh bien, si jusqu'à présent son mari, on peut dire c'était un peu son Dieu dans sa vie, hein, maintenant, eh bien, Dieu devait avoir la première place. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et là, on voit Élie qui est quand même perplexe. Perplexe. Bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais là, Élie ne comprend pas pourquoi. C'est comme s'il reconnaît pas Dieu, quoi. C'est son Dieu, il connaît son Dieu, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, et là, il le reconnaît pas. Est-ce que c'est possible que Dieu permette une telle chose alors que cette veuve a fait confiance à Dieu? Elle lui a vraiment fait confiance. Alors, il est bon d'abord hein, de se dire que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et il faut essayer de se garder, de l'enfermer dans une boîte hein, en se disant « Mais non, Dieu n'a pas permis cela » ou « Dieu ne peut pas permettre cela, c'est pas possible, Dieu ne fera jamais ça. » On ne peut pas le faire parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne peut pas, nous, sonder Dieu. L'Esprit de Dieu peut sonder Dieu. Lui peut révéler des choses, mais nous, on ne peut pas sonder Dieu. Et ne dit-il pas, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. » Ailleurs, on voit un homme qui est très éprouvé. On pourrait se dire, quand on voit Job, on se dit, « Mais plus éprouvé, hein, faut quand même chercher. » Et que dit-il à Job? Qu'est-ce que Dieu dit à Job? Il dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Qui peut avancer? Dieu ne fait pas bien. Qui peut dire, « Il a tort, il se trompe, il est injuste. » Sa volonté est mauvaise. Ses pensées sont ténèbres. Qui peut dire ça? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et les desseins de Dieu ne sont pas ténèbres. Ils sont lumière, ils sont sagesse, ils sont amour. Comme le dit le cantique, hein, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais, même quand il permet une épreuve qui est douloureuse. Et il peut la permettre, il peut le faire. Mais il est aussi écrit, aucune tentation ou épreuve, on peut le traduire comme cela, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La supporter ou la surmonter. Et si Dieu l'a permis, c'est que ben, il y a une porte de sortie. Et pas une porte à la dérobée là où on part en se penchant accablé dans la honte, hein, mais une porte où on sort et on en est affermi. On en est plus fort, plus solide. Versets 21 et 22, 1 Rois 17. Et Élie s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Et j'aimerais maintenant qu'on se mette un petit peu à la place d'Élie. Donc, il reçoit l'hospitalité de cette veuve, il rentre chez elle, et finalement, il se dit, mais je lui ai amené le malheur, quoi. Je lui ai amené le malheur dans sa maison, malheur dans sa famille. Et c'était une terrible situation. Vous êtes invité, par exemple, à un repas, et puis il y a un merveilleux vase de Chine sur une colonne, et bing, vous faites tomber le vase. Dans quel sentiment vous éprouvez? Une fois, on était avec Kimberly, on était chez quelqu'un, et on fait tomber un vase de cristal. Magnifique. On n'était pas bien. On n'est pas bien dans ce cas-là. Hein. On se dit, mince, je viens, et il m'invite et tout, et puis ben, je lui casse quelque chose. Quoi. Eh bien, je ne sais pas, vous imaginez, vous multipliez par 10 000, et c'est un peu le sentiment qu'avait Élie, hein, par 10 000. Bien sûr, il n'était pas directement fautif de la mort de cet enfant. Mais c'était l'homme de Dieu, c'était l'homme qui vivait pour le Créateur, hein, qui servait le prophète, hein, le porte-parole de Dieu. Et son Dieu, eh ben, c'était celui qui fait vivre et qui fait mourir. Alors, eh bien, il est dans sa maison et il se sent pas bien, c'est une situation terrible. On sait que on fait la volonté de Dieu, on obéit à sa voix, et puis la situation tourne mal. Et là, on se sent mais pas bien du tout. Et on comprend plus la volonté de Dieu. Et parfois aussi, dans la volonté de Dieu, ça se passe pas bien. Hein. Ça se passe pas bien du tout. Est-ce que Élie était pas à sa place? Oui, il était à sa place. Pas de problème. Parfois, dans son couple, il semble que ça va pas du tout, hein, ça va plus du tout. Il y a des disputes, il y a des larmes, de la colère. Hein. Parfois, c'est avec ses enfants où ça va plus du tout. Il y a rien qui se passe comme on l'espérait ou on l'attendait. Parfois, c'est dans notre travail, dans notre emploi. Il y a des tensions où on espérait quelque chose, hein, une amélioration, et puis ça vient pas. Pour les plus jeunes, parfois, c'est la scolarité qui part de travers. Et pourtant, on avait la conviction que, eh bien, on était dans la volonté de Dieu. Et c'est sûrement la réalité, si on le pensait avec conviction auparavant. On a fait le bon choix, on a pris les bonnes décisions en amont. On est dans la volonté de Dieu, mais l'épreuve, elle est là. Et elle est peut-être là pour une seule raison, c'est prier. Dieu veut que nous prions. Et on voit Élie qui prend la chose très au sérieux. Il fait pas la chose rapidement comme ça, avec nonchalance, hein, mais il s'y est donné de tout son cœur. Et Dieu permet parfois des épreuves qui sont difficiles pour qu'on commence à prier avec sérieux, avec cœur. On pourrait dire une prière qui est fervente, fervente. Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant. Pourquoi il s'est étendu 3 fois? Et s'il y a la notion de persévérance, hein, de répétition. Et on peut dire que Dieu veut que nos prières soient réellement sur notre cœur. Il veut qu'on insiste, hein, qu'on lutte, qu'on s'investisse dans la prière. Élie n'était pas en train de penser à autre chose dans sa prière, là, hein. Vous savez, comme parfois, eh bien, nous prions, hein, et puis, d'un seul coup, on se retrouve à loin, hein, à 10 ans ou à 500 kilomètres de la prière, là, parce que, ben, voilà, une pensée, et hop, et puis après, on doit revenir, hein, dans la prière. Hein. Ici, lui, il était concentré, vraiment, toute son âme était orientée dans la prière. C'est pour ça qu'il faut privilégier un endroit calme, où on est, voilà, absence de distraction. À l'époque, les pièces, elles n'étaient pas remplies d'ordinateurs, de télé, de plein de choses. Hein. C'était une table, c'était un lit, c'était tout, une chaise. Hein. Et donc, il n'y avait rien que Élie avec cet enfant. Et toute son âme s'est impliquée. Elle était participative, il était vraiment de cœur. Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au devant de lui. C'était le cri de son âme. Et vous savez, Dieu a besoin d'entendre notre âme. Il n'a pas besoin d'entendre des répétitions. Il veut entendre notre âme. Que l'âme parle, qu'elle réclame, qu'elle demande. Et cette prière-là, eh bien, elle a trouvé l'exaucement. Versets 22 et 23. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et c'est certain que si Dieu permet l'épreuve, eh bien, c'est pour qu'on monte, comme Élie, dans la chambre haute. Hein, ça veut dire qu'on s'approche de Dieu. C'est pour réclamer qu'il fasse grâce, qu'on prenne la chose au sérieux. Et il n'y a que quand on prend la chose au sérieux que Dieu peut exaucer. Donc, il n'était pas dans la volonté de Dieu de priver cette femme de son fils. Et sitôt qu'elle a laissé abandonner, hein, son fils aux mains d'Élie, eh bien, elle l'a retrouvé. Et c'est souvent comme cela. Vous savez, les témoignages abondent dans ce sens. Hein, et peut-être que vous l'avez vécu, et sûrement, vous l'avez déjà vécu vous-même, peut-être plusieurs fois. Rien qu'en y réfléchissant un tout petit peu, il y a 3 choses qui me sont venues à l'esprit. Alors, je ne vais pas vous dire exactement ce que c'était. La première, c'était une petite chose anodine. On va aller crescendo. Mais j'avais pas la paix pour l'acheter. Petite chose, pas grand chose, hein, mais un petit plaisir auquel j'ai renoncé parce que j'étais convaincu que là, ben, je sais pas, Dieu voulait pas que je le fasse. Alors, ben, j'y renonce. 2 heures plus tard, on me l'offre. Oh, merci Seigneur. Ça fait du bien, hein. On renonce et Dieu nous donne. Deuxième chose, un peu plus importante. Quelque chose que j'affectionnais et finalement, concours de circonstances, je l'obtiens. Mais c'était... je l'aimais bien. Quoi, hein. Et ça prenait du temps, ça prenait de l'importance. Hein, c'était mon petit trésor du moment. Et après peu de temps, j'arrive à la conviction, il faut que je m'en sépare. Il ne faut pas que je garde cette chose-là, ce n'est pas la peine. Il faut que je m'en sépare. Alors, eh bien, je fais une croix dessus. Allez, j'en veux plus. Fait mal, j'aimais bien. Et puis 1 an plus tard, Dieu me le redonne. Puis cette fois, bon, mon cœur n'y était plus attaché, terminé. Parce que ben, il y avait une délivrance. Hein. Ça, c'est ce que Dieu voulait. C'est peut-être ce que Dieu veut pour vous, hein, que vous lâchiez pour être libre, vraiment libre. Troisième expérience, cette fois encore plus importante, hein, plus grande. Hein. Quelque chose pareil que j'aimais particulièrement. Ça occupait beaucoup de mes pensées. Puis je lâche prise, hein, j'offre au Seigneur. Hein. Et puis un mois plus tard, Dieu me donne au-delà de ce que j'espérais. Et c'est à chaque fois comme ça. On offre au Seigneur, on lui fait confiance, on accepte la situation. Parfois, on y renonce. Hein. Et à ce moment-là, Dieu nous le redonne. Nous accorde la chose à laquelle nous avons renoncé. Simplement parce qu'on a décidé de lui faire confiance et de le mettre en premier. C'est toi qui comptes, Seigneur. C'est pas ce que moi je veux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est là où Dieu choisit d'intervenir. C'est quand le cœur lâche, quand il s'ouvre, quand il se repose. Alors c'est vrai que parfois aussi, on ne retrouve pas la chose. Il faut le dire. Hein. Parfois, c'est derrière nous, c'est pour toujours. Mais qu'importe, on n'en souffre pas. Parce que quand on est sincère et qu'on a vraiment lâché, alors on n'en souffre pas. On en souffre quand on n'a pas lâché, ça c'est sûr. Mais quand on est sincère, on n'en souffre pas. Quand vraiment on lui donne, alors eh bien, il n'y a plus de souffrance. Mais c'est la paix, c'est la confiance. Puis après, ben, Dieu fait comme il veut. Il fait dans sa volonté, selon sa nature aussi de miséricorde et d'amour. Verset 24. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Donc cette femme avait un fils décédé dans ses bras, sur son cœur, sur son sein. Et après l'avoir laissé au prophète, le fils recouvre la vie. Il était ressuscité. Et on peut se dire, mais quoi de plus beau, quoi de plus grand que ça? Elle est éblouie, reconnaissante, dans la crainte et le respect de ce Dieu qui est si bon, si grand. Mais on peut appliquer aussi cette réaction à nos vies, hein, parce qu'il est également certain que lorsque on vit une expérience comme celle-là, c'est-à-dire celle du renoncement, celle de l'abandon, du repos dans la confiance, et la grâce de Dieu qui redonne ce à quoi nous avons renoncé, quand ça arrive, alors eh bien, on est plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance. On est plein d'amour pour Dieu. Et puis aussi, on a une conviction forte que Dieu est véritable et que sa parole, elle est vérité. Et ça, c'est une expérience que chacun fait, que chacun doit faire dans sa vie chrétienne. Vivre ces choses avec Dieu. Et je vous disais que la première chose que Dieu demande, le premier sacrifice, premier don, c'est celui de notre cœur. Dieu demande notre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et si c'est difficile que de donner son cœur, il faut quand même le dire, faites-en l'expérience vous-même. Parce qu'on a toujours cette vision de la perte. On a le sentiment, je vais être perdant si je donne mon cœur. Je vais perdre ma liberté, je vais perdre mon autonomie, je vais perdre mon indépendance, je vais perdre ma vie en quelque sorte, hein. Je vais perdre ma vie. Mais quand on fait ce pas de la foi, quand on fait confiance et que nous lui donnons finalement ce que nous avons de plus précieux, de plus important, c'est-à-dire notre vie, alors on découvre qu'on ne perd pas vraiment. On ne le perd pas vraiment. Plutôt, on gagne notre vie ou on la regagne. On la redécouvre. Mais en mieux. Matthieu 10, verset 39, c'est ce qu'il a dit. Jésus l'a enseigné. Matthieu 10, verset 39. Ça vient même à la suite du passage que nous avons lu. On peut le lire à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et ça nous montre que on ne perd jamais quand on donne au Seigneur. Mais pour donner, il faut faire confiance. Vous n'allez jamais confier la chose la plus précieuse que vous avez à quelqu'un dont vous ne faites pas confiance. Vous ne lui donnerez jamais. Et quand c'est la vie, quand c'est le cœur, hein, certains ont bien du mal à monter dans la voiture de quelqu'un. Il y a une crainte, hein. Bon, des fois, c'est avec raison, hein. Mais des fois, c'est pas forcément justifié. Mais il y a une crainte, il y a une peur, hein, parce que finalement, c'est donner le contrôle de sa vie à quelqu'un. De l'autre côté. À quelqu'un. Et un accident, c'est vite arrivé. Quelqu'un me partageait sa crainte chaque fois qu'elle montait dans un avion. Et il y a une appréhension, hein, parce qu'on donne sa vie à ceux qui sont dans le cockpit, et puis à la grâce de Dieu. Hein. Et c'est d'autant plus difficile que de confier sa vie, son cœur, c'est tout, c'est ce que je suis, hein. Où Dieu va me mener. Mais Jésus a dit, il faut rester sur cela, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Fais-moi confiance. C'est le meilleur. Et Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. On va s'incliner dans la prière.